Jean-Louis rentre à la maison. Visiblement satisfait de sa journée. Il y a comme ça des jours où on se dit qu'on a bien fait de se lever le matin. Il souhaite vivement qu'Yvonne, son épouse, lui demande ce qui provoque cette mine réjouie. Et il attend. Il attend. Et la question ne vient pas. Et pourtant, il bombe le torse, il se racle la gorge bruyamment. Mais non, Yvonne ne demande pas à Jean-Louis pourquoi il est si satisfait de sa journée. Alors, n'étant jamais aussi bien servi que par soi-même, Jean-Louis lance « Aujourd'hui, le directeur de l'agence m'a dit que j'étais son ami. » Il est fier, il a le sourire béat et il attend la réaction enthousiaste d'Yvonne. Yvonne ne lève pas les yeux de son livre et rétorque en une petite phrase « Il a certainement un service à te demander, ton patron. » Voilà, à trop prétendre être l'ami des grands de ce monde, on peut passer pour un naïf, ou peut-être pour un prétentieux. Comment faut-il comprendre alors cette déclaration de Jésus à ses disciples « Vous êtes mes amis ». Devons-nous nous méfier ? Jean 15, cela a été lu tout à l'heure, je serai sur ce texte ce matin. Lorsque Jésus dit cela, « Vous êtes mes amis », il a la position du maître devant ses disciples. Jésus ne se livre pas à un exercice de démagogie de bas étage où il jouerait les copains de ceux qui demeurent ses disciples pour peut-être mieux les manipuler. Qu'a-t-il dit à ses disciples en les qualifiant d'amis ? Qu'a-t-il communiqué ? Nous allons lire ce texte dans un instant. C'était pour les impliquer, pour les mobiliser, pour leur confier des responsabilités. Je vous propose la lecture de Jean 15, donc ça vous en étiez rendu compte, je pense. Donc l'évangile de Jean, chapitre 15, et ce sera à partir du verset 12. Nous avons déjà lu ici ou là plusieurs de ces textes au cours du culte de ce matin. « Voici mon commandement, dit Jésus donc à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Je vous propose la lecture des trois versets 14, 15 et 16, plus particulièrement. Vous êtes, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est une phrase un peu particulière. S'il fallait définir l'amitié en citant cette phrase, nous serions bien malheureux. Tu es mon ami si tu m'obéis. Je pense que si je disais ça, j'aurais pas beaucoup d'amis. Mais c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ne l'oublions pas. Si nous pouvons prétendre, en vertu de la déclaration de Jésus, que nous sommes amis de Jésus, cela n'enlève pas le fait qu'il est notre maître et notre modèle, puisque nous sommes ses disciples. Il ne s'agit pas d'une amitié d'égal à égal. Et lorsque tout à l'heure il a été question d'Abraham, l'ami de Dieu, de Moïse, l'ami de Dieu, c'était pareil. Il ne s'agit pas d'un ami, d'un pote. Et lorsque l'auteur s'étonnait de ce qu'Abraham parlait avec Dieu d'égal à égal, ou Moïse, pardon, d'égal à égal, c'était justement parce que c'était très étonnant et que ce n'était pas dans le cours des choses. Nous pouvons être amis de Jésus, oui, mais nous sommes ses disciples. Et là, on comprend ce que Jésus a dit. Vous êtes mes amis si vous restez mes disciples. On pourrait l'avoir pour maître, ceci dit, sans en être un ami. Il y aurait là une relation de maître-serviteur. D'ailleurs, c'est ce qui est dit un peu plus loin dans le texte. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mes esclaves. Mais Jésus nous offre, outre le fait que nous sommes ses disciples, d'être aussi ses amis, si nous restons ses disciples. Jésus offre son amitié à celles et ceux qui savent suivre son enseignement et imiter le modèle de sa conduite. Il élève ses disciples au rang d'amis. Allons-nous refuser cela ? Allons-nous faire fi de cette amitié de Jésus à notre égard ? Allons-nous en rester à une simple obéissance ? Que nous aurons d'ailleurs du mal à maintenir. Où voulons-nous approfondir notre relation avec le Seigneur? Comment comprends-tu ta vie chrétienne, ta vie spirituelle? Est-ce une liste de choses à faire ou à ne pas faire? Je ne sais pas laquelle des deux listes est la plus longue. Est-ce que c'est venir à l'église pour s'y faire voir peut-être, pour avoir accompli son devoir dominical ou hebdomadaire? Est-ce que c'est faire une prière de temps en temps, histoire de causer un petit peu, quand même, de faire entendre notre voix à ce Dieu qui nous devient si lointain? Est-ce que c'est un jour avoir été baptisé? Et puis aujourd'hui, c'est une histoire ancienne. Être chrétien, est-ce que c'est seulement ça? Jésus veut plus que cela. S'il a dit à ses disciples qu'ils étaient ses amis, c'est parce qu'il veut plus qu'une simple obéissance que l'on fait plus ou moins bien, parce que les motivations manquent. Aussi mystérieux que cela nous apparaisse, Jésus nous appelle ses disciples et après, à leur suite, nous, ses amis. Il veut l'amitié de notre part. Il veut l'amour de notre part. Il veut qu'on l'aime, qu'on le lui dise, qu'on se sache aimer de lui, qu'on agisse par cet amour et que les listes, qu'elles soient longues ou courtes, nous les accomplissions non pas pour avoir coché des cases, mais parce que nous l'aimons. Parce que nous avons avec Jésus-Christ une relation de confiance, d'estime, de fidélité. Qui dit amitié dit fidélité. Je ne suis pas ami tous les 15 jours, 5 minutes envers quelqu'un. Toutes les semaines peut-être, pendant une heure et demie. Je suis ami tout le temps. Donc la première des idées que nous avons dans ce verset 14, c'est que Jésus nous élève au rang de ses amis. Que faisons-nous de cette invitation qu'il nous lance? Ne la méprisons pas. Ne frustrons pas notre Seigneur de notre amitié, car lui se présente non seulement comme notre maître, mais comme notre ami. Que faisons-nous, verset 15, de ce que Jésus nous enseigne, nous dit? Je vous rappelle le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Alors, dans certaines traductions, vous pouvez avoir esclave. C'est un mot très clairement qui désigne les serviteurs ou les esclaves dans les maisons, par exemple. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Alors, je ne vous appelle plus serviteur. C'est comme s'il y avait une montée en grade, quoi. Avant, vous étiez seulement serviteur, mais maintenant, vous êtes mes amis parce que je vous ai expliqué des choses. comme si la relation s'intensifiait, montait en puissance ou en qualité. En quoi consiste la différence ? En ce que Jésus s'explique, enseigne. Jésus a donné de la loi juive un sens formidablement approfondi. Il a fait passer dans les observances, il a fait passer l'importance sur les, qui était sur les rites extérieurs à ce qui se passe à l'intérieur de l'être. Il a rendu caduque toute obéissance aveugle et il impose d'agir en conscience, en sachant pourquoi on fait les choses. Par exemple, le sabbat. Nous savons que le sabbat est un des commandements de la loi juive et qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat parce que c'est un jour consacré au Seigneur. À plusieurs reprises dans les évangiles, il est raconté des problèmes que Jésus a eus concernant le sabbat avec les juifs de Jérusalem notamment, mais aussi, enfin disons, du pays de Palestine. Jésus enseigne que le sabbat n'est pas juste de ne rien faire, mais aussi de faire du bien. Il a choisi de guérir un homme le jour du sabbat, en sachant très bien quelles allaient être les réactions, et pour enseigner le fait que le jour du sabbat, mais c'est le bon jour pour faire du bien, pour guérir quelqu'un. On fait ça pour les bêtes. Pourquoi on ne ferait pas ça pour un être humain ? Les disciples de Jésus cueillaient des épis de céréales parce qu'ils avaient faim et qu'ils voulaient manger. Mais cueillir des épis, c'est un travail. Donc il ne faut pas faire ça un jour de sabbat. Voilà ce qui était reproché à Jésus et à ses disciples. Ce à quoi Jésus répond, il y a des exemples dans l'Ancien Testament, laissons-les, ce serait intéressant de les citer. Il parle de David dans le temple, dans le tabernacle. Et il dit, mais il ne s'agit pas de s'affamer le jour du sabbat, mais de se faire du bien. Et Jésus force les gens qui l'écoutent à aller plus loin dans l'observance. Il veut qu'il ne soit pas, il ne veut plus qu'il soit seulement serviteur, mais il veut aussi qu'ils soient amis, qu'ils agissent en conscience. Jésus a enseigné clairement aussi. Non seulement il a, par ses enseignements multiples, je n'ai cité qu'un exemple, celui du sabbat, mais il y a d'ailleurs une petite explication dans le contexte dans lequel nous trouvons. Alors, moi, je suis dans le chapitre 15. Alors, un petit saut dans le chapitre 16, où Jésus ne parle plus en parabole ou en comparaison, dit la parole de vie, mais parle clairement. 16:25. Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons, mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons, je vous parlerai du Père clairement. Jésus a pris du temps et de l'énergie pour enseigner ses disciples clairement. Et à d'autres, un peu plus loin, il est question de ses disciples qui se réjouissent. Ah ben enfin, on comprend quelque chose, hein. Que quand il parle en parabole, on est un peu largué quand même sur les bords, hein. On n'arrive pas à comprendre. Les paraboles étaient là pour piquer la curiosité, pour donner, éveiller l'intérêt, pas forcément pour expliquer de manière pleine, entière, claire. Et là, Jésus, à ses disciples, choisit de leur parler clairement. Ils ne sont plus ses serviteurs, ils sont ses amis. L'Esprit-Saint a cette fonction aussi, nous dit le même évangile de Jean. Et l'Esprit-Saint, c'est celui qui est en nous aujourd'hui. Nous n'avons plus Jésus-Christ face à nous, nous ne le suivons plus sur les chemins de Galilée ou de Judée, mais nous avons l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Le Père enverra, 14:26, c'est toujours dans le même secteur, l'évangile de Jean. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Quelle responsabilité d'être les amis de Jésus. Il y a certains moments où je préférerais rester serviteur. Franchement, ce serait plus simple, hein. On va à l'église le dimanche, on essaie d'être à l'heure, et c'est bon pour la semaine, on est tranquille. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus veut qu'on soit ses amis. Il nous enseigne, il ne nous laisse pas tranquilles. Même l'Esprit Saint vient et nous place les vérités divines dans nos cœurs. Même, on a la Bible dans notre langue, on l'a sous le nez et il faut qu'on la lise et on est responsable de tout ça. Et ce n'est pas facile. Et c'est une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait de ces explications, de l'enseignement que nous donne Jésus parce que nous sommes ses amis? Qu'est-ce qu'on en fait? Je discutais hier avec un jeune qui se reconnaîtra et qui, pendant longues années de sa scolarité, n'en fichait pas une. Un cancre qui aujourd'hui vise un bac plus 5, rassure sur son compte. Un jour, il s'est mis à travailler, certes, mais nous, chrétiens, c'est pareil. Il y a des cancres parmi nous et j'en ai fait partie. Il y a des gens qui s'en fichent complètement de l'enseignement de Jésus. Et ce n'est pas normal, parce que Jésus nous donne cet enseignement parce que nous sommes ses amis. Que faisons-nous de l'Évangile? Que faisons-nous des épîtres de Paul? Que faisons-nous de toute la Bible? Nous l'avons face à nous et nous sommes responsables de la mettre en œuvre dans nos vies. Ta foi est-elle celle d'un serviteur? Ou celle d'un ami? Est-ce que tu cherches à comprendre ce que ton ami Jésus a dit? Est-ce que tu l'étudies? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu te rends disponible pour cela? Ou pas? Tu as le temps de regarder les Jeux Olympiques? Tu as le temps de regarder je ne sais quelle autre chose fort intéressante? Je regarde les Jeux Olympiques aussi, surtout quand la France gagne. Enfin, en même temps, on ne peut pas savoir à l'avance, hein, donc on prend un risque, mais bon. Où est-ce que tu prends du temps pour méditer l'enseignement de ton ami Jésus? Verset 16. Je vais le relire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Donc là, Jésus insiste. En plus, je me suis trompé de chapitre. Ouais, Jésus insiste et moi, je me suis trompé de chapitre, pardon. Verset 16, donc. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Là, on voit encore le fait qu'il ne s'agit pas d'une relation d'amitié d'égal à égal. Des amis comme vous et moi se choisissent mutuellement. Là, c'est Jésus qui est le maître, qui a choisi ses amis. Je pense que c'est certainement un texte qui est cité dans les discussions sur les discussions théologiques sur qui a l'initiative du salut. Laissons cette question passionnante de côté, et gardons simplement cette idée. Jésus reste le maître ici aussi. Et elle a choisi ses amis pour les envoyer. Je vous ai envoyé, je vous dis, allez et agissez, portez du fruit. Jésus confie une mission à ses amis. Et là encore, je préférerais être serviteur. Je viendrai 10h14 et c'est bon. Mais là, Jésus me dit, tu es mon ami, vas-y, va dans ce monde et produis du fruit. Agis dans ce monde pour le bien, pour la gloire de Dieu et pour le bien des hommes. Et il y a un petit mot qui n'est pas traduit dans la traduction que j'ai sous les yeux. Il dit, je vous ai mis en place, institué. Cela suggère que nous avons dans ce monde le statut d'ami de Jésus. Alors, je ne suis pas en train de bomber le torse. Ah ouais, nous, on est amis de Jésus, formidable. Ce n'est pas ça du tout. Cela veut dire que nous avons une responsabilité dans ce monde. Lui est le maître. Nous sommes ses amis. Il nous confie une mission dans ce monde, celle de porter du fruit, c'est-à-dire de faire le bien autour de nous. C'est-à-dire de faire découvrir la beauté de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'être les amis de Jésus, vous savez, un petit club refermé, bien protégé. Quelquefois, c'est ça, les amis, c'est un genre de cercle fermé, quoi. Vous savez, bon, je suis ami d'un tel, alors j'ai le droit d'aller chez lui ou chez elle, et puis on peut passer quelques jours de vacances tranquillement, personne ne nous dérange, on nous fiche la paix. C'est pas du tout ça, l'amitié de Jésus, c'est une amitié qui nous mobilise vers les autres. C'est un envoi dans ce monde. Que Dieu nous inspire quant à la place que nous occupons dans la société. Que Dieu nous inspire nos choix, nos actions, nos comportements, nos paroles, notre écoute à l'égard des personnes qui sont autour de nous. Nous sommes amis de Jésus dans ce monde. Jésus nous dit d'aller. Mais il place en nous son esprit. Il ne nous laisse pas tout seul. Et il nous propose une vraie relation. Ainsi, c'est la suite du verset 16, « Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » C'est un peu comme si je demandais à quelqu'un de partir faire une mission, un voyage, et je lui donne un téléphone. Je dis « Écoute, ce téléphone-là, tu peux l'utiliser ?» Et je te réponds, c'est moi qui te répondrai tout le temps, H24. Dieu fait ça avec nous, c'est la prière. Cela nous engage à parler à Dieu, à nous ouvrir à lui. Mais cela nous engage à bel et bien tenir notre place d'amis de Jésus dans ce monde. Verset 12 disait, « Aimez-vous les uns les autres. » Le verset 17 répète « Aimez-vous les uns les autres. » Comme si Jésus pressentait que les chrétiens auront du mal à s'aimer les uns les autres, à s'entendre. Si nous voulons être porteurs de l'Évangile, c'est encadré par cet ordre de nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, c'est obéir à Dieu. Faire partager cet amour autour de nous, à d'autres, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu s'entend dans une relation d'amour avec lui, d'ami. Être ami de Dieu, c'est savoir pourquoi on lui obéit. C'est lui être attaché dans une relation personnelle. Es-tu l'ami de Dieu ? Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu restes le maître et que cela nous met en sécurité. Mais cela nous mobilise aussi. Tu n'attends pas de nous, Seigneur, que nous soyons de simples serviteurs, mais tu as choisi de nous considérer comme amis parce que tu t'es révélé à nous, tu nous fais connaître beaucoup de choses et tu donnes du sens à nos vies et nos actions. Seigneur, nous te louons et nous te prions pour que nous sachions accepter cette amitié et la mettre en œuvre dans nos vies, et que nous sachions prendre place en tant qu'amis de Jésus dans la société d'aujourd'hui et d'ici. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.